France Culture.
Sur France Culture à 8h30 en ce dimanche matin, Jean-Luc Gadreau pour vous conduire dans ce soleil, le rendez-vous protestant, une émission proposée par la Fédération protestante de France. Nous retrouverons aujourd'hui le pasteur Pierre Magne de la Croix, président du conseil synodal de l'église protestante réformée d'Alsace et de Lorraine, pour le deuxième rendez-vous autour de l'apôtre Paul et avec lui notre chroniqueur Vincent Smetana. Bonjour à vous deux, bonjour Pierre, bonjour Vincent.
Bonjour.
Bonjour.
Quatre émissions chaque premier dimanche du mois, en janvier, février, mars et avril. C'est donc le deuxième rendez-vous dans cette série pour évoquer avec vous ce personnage de Paul. Un apôtre mis parfois en opposition à l'évangile, lui avec un discours compliqué, dogmatique, misogyne, face à une bonne nouvelle, simple, réconfortante, universelle. Enfin, on peut imaginer les choses de la sorte. Pourtant, ses écrits ont marqué la pensée, préparé des basculements dans la manière de voir Dieu, dans le monde, de voir Dieu, de voir le monde, de voir les humains. Les lettres de Paul sont enracinées dans ces expériences, elles témoignent alors d'une pensée, d'une spiritualité qui se construisent dans des rencontres, dans des luttes, dans des questionnements. Et ce matin, c'est son rapport au pouvoir politique que vous souhaitiez aborder, Pierre Magne de la Croix, avec le chapitre 13 de l'Épître aux Romains. Mais avant, et en guise d'ouverture, si nous donnions tout de suite la parole à Vincent Smetana, qui évidemment lui aussi s'est penché sur le cas Paul. N'est-ce pas, Vincent ?
Je définis la cour un pays où les gens, tristes, gais, prêts à tout, indifférents, sont ce qu'il plaît au prince, ou s'ils ne peuvent l'être, tâche au moins de le paraître. Peuple caméléon, peuple singe du maître, écrit Jean de La Fontaine dans Les obsèques de la Lionne. Eh bien, à propos de caméléon, je me souviens que je croisais quelqu'un l'autre jour, lors d'une séance de dédicace de mon livre « Toujours le mot pour dire ». Ce que je viens de faire ici s'appelle un placement de produit, hein, soyez attentifs. Et donc, nous nous sommes enthousiasmés à parler de Paul, de son caractère, de sa façon et sa manière. Et cette personne me disait « Non, mais quand même, ce Paul, quel... » Caméléon. Caméléon, pris dans mon dictionnaire entre camé et caméléonesque. Camé, bijou ciselé tirant parti des différentes couleurs qui le composent. Tirant parti, notez bien. Caméléonesque, adjectif rare, personne au caractère changeant comme un caméléon. Et caméléon, lézard arboricole présent en Afrique et en Asie. En Asie, tiens. Remarquable par sa queue préhensile et ses yeux indépendants, tirant parti pour sa survie de son aptitude à l'homochromie. Homochromie, aptitude à s'harmoniser de façon permanente ou temporaire avec le milieu dans lequel on vit. Ainsi, je me fais tout à tous, dit Paul. On y est ou on n'y est pas? Juste ou pas juste?
Bon. Il paraît que l'on parle même d'un syndrome du caméléon.
Mais tout à fait. Le syndrome du caméléon, c'est un phénomène observé chez certaines personnes HPI ou hypersensibles. Était-ce le cas de Paul? Cette tendance à s'adapter aux attentes et aux comportements de son environnement, sorte de mécanisme habile pour éviter l'exclusion sociale ou la stigmatisation, genre être chrétien dans la foule en ce temps-là, distinct mais sans que ça ne se voit trop pour permettre que le dialogue reste toujours possible quand le sujet devient chaud, mais attention, car ça peut également conduire à un sentiment de vide ou de confusion identitaire, disent les psychologues, ouais. Car à force de jouer au caméléon, Paul, tu ne sais plus qui tu es. Et c'est là que j'appellerai Paul, hein. Je lui dirai, dis Paul, c'est moi, c'est Vincent, je voulais te dire, non, vas-y, je t'encourage, c'est génial, mais quand même fais gaffe, Paul, je sais pas moi, si tu t'entêtes, tu vas moisir en tôle, Paul, quand même, faudrait pas que tu perdes l'équilibre entre ton besoin vital, dirait-on, de t'adapter à ton environnement, et je comprends pourquoi tu fais ça, et celui de maintenir une connexion saine à ta propre identité en Christ, Paul, conseil d'amis, quoi, genre, non, c'est important que je lui dise, j'ai pensé, et devinez quoi? Après avoir raccroché avec Paul, j'ai déniché une étude menée par des scientifiques danois qui a montré que les personnes qui ont rapporté des comportements caméléonesques plus élevés ont également montré des niveaux plus élevés de traits de personnalité tels que la flexibilité, la sociabilité et l'ouverture d'esprit. Bon point pour un orateur, ça. Très bon point pour Paul, ça. Pour le coup, reste juste à se poser les bonnes questions pour garder l'équilibre du discours, mon petit Paul. Est-ce que j'en fais pas 10 caisses? Genre, est-ce que je me suradapte? Et si oui, avec qui? Dans quel but? Qu'est-ce que ça me coûte? Quels sont les bénéfices à le faire? Paul, en fait, là-dessus, est très clair. Je fais tout cela pour la bonne nouvelle, afin d'avoir part au bien qu'elle promet, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Conclusion, caméléon ou alors fin politicien, Paul? Politicien du latin politicus, issu du grec ancien politikos, composé de politesse, citoyen, fin et adroit, qui s'accommode à l'humeur des personnes à qui il parle, prudent et réservé, qui affine la nature de ses relations dans ses paroles et dans ses actions. Ça fonctionne, hein ? Reconclusion, les amis, caméléon ou fin politicien, Paul était, pour le moins, disons, passionné, habile et inspiré à partager la bonne nouvelle, et c'est peu de le dire que de le dire si simplement. Ah, ce cher Paul, vraiment.
Merci Vincent. Un caméléon ou un fin politicien? On est dans la thématique, Pierre Magne. On va peut-être avoir des éléments de réponse dans notre discussion.
Peut-être caméléon, peut-être enraciné dans son époque et prenant en compte la manière dont les gens pensent les choses et les vivent. Et il va entrer en discussion, en débat, et peut-être déplacer les choses.
Alors nous utiliserons en support ce matin Romains 13, et nous l'entendrons tout à l'heure dans ce chapitre, un verset, une phrase qui peut paraître assez lapidaire. « Soyez soumis aux autorités ». Point d'exclamation. Mais vous privilégiez d'aller plutôt sur l'ensemble du chapitre.
Oui, c'est toujours un peu délicat d'extraire un petit morceau et d'en faire toute une théorie. On a fait ça avec la phrase de Michel Rocard, hein,
la France ne peut pas accueillir
toute la misère du monde, et on s'arrête là. Et il aurait quand même poursuivi en disant on a notre part à prendre aussi. Et il me semble important dans les textes de Paul, mais aussi dans les relations, dans la manière dont nous sommes les uns avec les autres, de ne pas s'arrêter en 20 secondes, mais de voir comment la pensée évolue, comment une idée aussi prend corps et se transforme dans le temps et aussi dans la suite des arguments. Alors Romains 13, c'est vrai, on cite toujours le début, hein, soyez soumis, alors là, tac, on arrête, taisez-vous, obéissez, soyez serviles et obéissants. Or, on va le voir, hein, c'est un chapitre qui gagne à être connu dans la continuité de ce qu'il écrit.
Romain, l'épître, plus largement, oui. le contexte.
Alors, c'est un monument, 16 chapitres.
C'est l'inverse de Philémon.
C'est l'inverse de Philémon et c'est un document aussi qui a marqué l'histoire, Augustin, Calvin, Luther, la Première Guerre mondiale aussi, qui a permis de rebondir dans des moments extrêmement difficiles. Alors c'est un monument, peut-être que Paul récapitule sa pensée parce qu'il va à Rome, il écrit aux Romains. Peut-être qu'il écrit aussi pour désamorcer par avance des conflits. On sait que sa pensée et sa présence n'étaient pas toujours paisibles. Et donc l'écrit permet de dédramatiser aussi les choses et donc de désamorcer peut-être des points de vue qui sont mal compris. Et puis peut-être aussi il présente sa pensée à la communauté importante de Rome parce que Paul souhaiterait poursuivre vers l'ouest, vers ce qu'on va appeler l'Espagne, et qu'il a besoin de subventions. Donc on est pratique, une demande de subvention, font dire qui on est, qu'est-ce qu'on pense, où est-ce qu'on veut aller, voilà. Et on récapitule, on traite des choses sérieuses, par exemple le rapport au pouvoir politique, surtout à Rome.
Les 7 premiers versets de ce chapitre 13, vous nous les lisez tout de suite, Pierre Magne de la Croix.
Chacun doit obéir aux autorités placées au-dessus de nous. En effet, toute autorité vient de Dieu et c'est Dieu qui donne leur place à celles qui existent. Alors si quelqu'un lutte contre les autorités, il lutte contre l'ordre voulu par Dieu et ceux qui refusent de leur obéir seront condamnés. Quand on fait le bien, on ne doit pas avoir peur des autorités officielles, mais on doit avoir peur d'elles quand on fait le mal. Tu ne veux pas avoir peur des autorités? Alors fais le bien et tu recevras leurs félicitations. Oui, les autorités sont au service de Dieu pour te conduire au bien. Mais si tu fais le mal, tu dois avoir peur, car les autorités ont le pouvoir de punir, et ce n'est pas pour rien. Quand les autorités punissent, elles sont au service de Dieu, elles montrent la colère de Dieu contre celui qui fait le mal. C'est pourquoi il faut leur obéir, non seulement pour éviter la colère de Dieu, mais encore parce que notre conscience nous le demande. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts. En effet, les fonctionnaires qui les demandent sont chargés de ce travail par Dieu. Donnez à chacun ce que vous lui devez. Si c'est l'impôt, payez l'impôt. Si c'est une taxe, payez la taxe. Si c'est l'obéissance, obéissez. Si c'est le respect, soyez respectueux.
La Marseillaise qui devient a cappella, c'était le 16 novembre dernier au Stade de France pour le match de rugby opposant le 15 de France aux All Blacks néo-zélandais avec une brillante victoire tricolore, soit dit en passant. Il y a de la ferveur, il y a de la passion, c'est la République. Mais quel rapport avec Paul, Pierre Magne de la Croix ?
C'est le code civil, c'est les fondements de la société, c'est la déclaration des droits de l'homme. Paul, en début de Romain, est un citoyen. Romain, c'est un latin qui écrit à la communauté de Rome, qui habite Rome, là où se trouve le pouvoir. Et donc, il repose des choses essentielles de la vie ensemble, qui est, il y a des autorités, il y a des impôts, il y a des taxes. Et c'est ça qui nous permet de vivre les uns avec les autres. Aujourd'hui, on dirait, il y a le code civil. Voilà. Et le code civil, c'est ce qui permet de réguler, de vivre les uns avec les autres.
C'est un peu comme si vous, en tant que protestant à Strasbourg, en tant que réformateur, vous régentiez la vie publique de la cité.
Eh oui. Eh ben, pour vivre ensemble, il faut des feux rouges, il faut certaines règles qui permettent de fonctionner, de se déplacer, de grandir, d'éduquer. Et Paul est un citoyen romain, ouais. C'est aussi un juif helléniste, c'est-à-dire quelqu'un d'intégré dans la société. Et il reconnaît les pouvoirs, les autorités qui, au premier siècle, sont instituées par Dieu, c'est comme ça.
Alors justement, vous avez mis une certaine emphase dans la lecture. Oui. On pourrait dire qu'il y a une forme de pression là. C'est Dieu qui est derrière.
C'est Dieu qui est derrière. Ouais. Si le monde a un certain ordre, si le monde n'est pas dans un chaos permanent, si les loups ne dévorent pas les agneaux, c'est parce qu'il y a un minimum de règles, de repères qui sont initiés ou voulus par Dieu et qui s'incarnent pour Paul au 1er siècle en tant que romain, en tant qu'écrivant à la communauté qui habite Rome, le siège du pouvoir, qui s'incarne dans les règles de l'époque. L'historien Flavius Joseph, qui est un juif, lui aussi romain, écrirait la même chose. Mmh. Voilà. Où on retrouve certains éléments aussi chez le philosophe Philon d'Alexandrie. Le pouvoir, les autorités sont instituées par Dieu pour éviter le chaos et pour que les uns et les autres puissent vivre ensemble. Avec deux bémols.
Oui, parce que vous y voyez du positif, j'imagine, et du négatif.
Alors, moi, j'y vois du positif. Je suis un protestant, je suis très attaché au code civil. Et j'avais un professeur de théologie qui disait « L'amour du prochain commence par le paiement de l'impôt. Oui. » Voilà. Et quand je vais à mon travail, je passe devant l'école et je dis « C'est moi qui paye cette école. » Et puis je vois l'hôpital, je dis « C'est moi qui paye les hôpitaux. » Donc, c'est important de le rappeler. Et puis, il y a des feux rouges, voilà, qui évitent d'écraser ou de se faire écraser.
Donc ça, c'est le positif.
C'est positif.
Et puis le bémol.
Alors le bémol, vous l'entendez dans ce texte, je l'ai lu, il y a cette insistance sur le bien et sur le mal. Ouais. Sans pour autant que Paul dise qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Mais il introduit dans le code civil, dans les règles, cette espèce d'élément de bien et de mal qui demande de l'interprétation.
Jusqu'où obéir ?
Jusqu'où obéir, voilà. Et puis il y a cette introduction aussi qui a fait écrire la conscience. Tiens, on n'est pas aveugle, on n'est pas soumis. Il y a quelque chose dans l'être humain, chez Paul, chez les chrétiens, mais aussi chez Philon, qui dit qu'on convoque quelque chose qui nous appelle à faire du discernement et à essayer de comprendre et de voir mieux la conscience.
Voilà. Alors, on continue le texte. Je vous propose d'aller au verset 8 jusqu'au verset 10. Et cette fois-ci, c'est moi qui prends la lecture. Ne devez rien à personne, sinon d'aimer les uns et les autres. Celui qui aime accomplit le reste de la loi. Car en effet, vous connaissez les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne tue personne, ne vole pas, ne désire pas ce qui ne t'appartient pas. Ces commandements et tous les autres sont contenus dans cette parole. Aime ton prochain comme toi-même. Quand on aime, on ne fait aucun mal à son prochain. Ainsi, la plénitude de la loi, c'est l'amour. Thank you. Alors vous l'aurez reconnu, vous le connaissez très très bien ce morceau, Pierre Magne de la Croix. On est dans la finale de la 9e symphonie de Beethoven, 4e mouvement, et ça deviendra...
L'hymne européen, l'hymne à la joie, l'amour, tous les hommes sont frères, frères encore, pas encore sœurs, ça viendra, voilà.
On est bien avant l'Europe, mais c'est déjà cette idée qui est là...
Alors oui, après le code civil, après les règles, après les prescriptions, après les autorités, tout d'un coup, que vient faire l'amour? L'amour, et puis, vous l'avez lu, le rapport au décalogue, ces 10 paroles.
Alors d'abord l'amour, parce que c'est un mot magnifique, immense, peut-être le plus beau qui soit, mais on peut tout y mettre aussi dedans.
Oui, alors... Je l'entends pas ici comme l'amour comme étant du sentiment, de l'émotion.
C'est pas le romantique, là.
C'est pas le romantique, hein. On est au premier siècle, hein. Ouais. L'amour, c'est une relation juste et respectueuse à l'autre. La plus ancienne citation biblique sur l'amour, là, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est dans le livre des Lévitiques, hein, au chapitre 19, où il est dit, si ton frère a un conflit, si ça va pas, il faut faire des reproches, il faut parler, voire même, dans le texte, faire intervenir un tiers voir la justice, et c'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, c'est pas du tout j'aime parce que mon cœur, mon inclination, mon sentiment m'y pousse, mais c'est parce que j'ai une relation juste et respectueuse avec l'autre. Donc on voit que tout ce... Enfin, comme ça que je comprends qu'après tout le code civil, les règles, les feux rouges, les impôts, tout ça, c'est parce que je suis pas seul. Je vis avec d'autres. Et quelle est la relation juste? Quelle est la relation vraie? Quelle est la relation aimante avec les autres?
Alors justement, puisqu'on vit avec les autres, on a là, d'une certaine façon, un rappel des règles du vivre ensemble avec ces commandements donnés à Moïse. Alors, cette deuxième tablette, c'est ça?
Deuxième table de la loi, hein, le fameux décalogue, les 10 paroles, qui dans la culture juive sont bien présentes. Mmh. Philon d'Alexandrie, lui aussi, les cite. C'est-à-dire que c'est comme si, à l'intérieur, ou transcendant, ou au-dessus, ou au-delà du code civil et des règles que Paul a rappelées au début, il y avait comme des éléments universels, des règles universelles qui établissaient les relations fondamentales les uns avec les autres. Tu ne voleras pas. Tu ne tueras pas. Tu ne t'iricheras pas en couple. Voilà. Tu ne convoiteras pas. Vous voyez que Paul cite la seconde table de la loi. Mmh. Voilà, hein, une bonne relation les uns avec les autres. Comme pour peut-être donner du poids au code civil ou peut-être pour introduire quelques décalages ou quelques prises de distance par rapport au code civil.
Alors donc, on a le code civil, Romains 13, 1 à 7. Ensuite, versets 8 à 10, le sens par les liens avec les autres et le rappel des lois universelles, oui, qui rappelle aussi donc notre interdépendance. Mais est-ce qu'il ne manquerait pas quelque chose ou quelqu'un dans le développement de Paul?
Eh ben oui, qu'est-ce qui manque chez Monsieur Paul qui est en permanence concentré, centré, tourne autour d'un thème principal? Il n'y est pas.
Ouais. Alors, il y a la suite quand même.
Oui, il arrive.
On va écouter les versets 11 à 14, c'est Vincent Smetana qui se met au travail.
Vous savez en quel temps nous sommes. C'est le moment de vous réveiller de votre sommeil. Aujourd'hui, en effet, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est tout proche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans ripaille ni beuverie, sans coucherie ni débauche, sans querelle ni jalousie. Revêtez-vous de tout ce que nous offre Jésus-Christ le Seigneur et ne vous laissez plus entraîner par votre propre nature pour en satisfaire les désirs.
Handel, après la Marseillaise, l'hymne européen, en quelque sorte, on pourrait dire l'hymne des protestants.
Vous l'entendez comme ça ? À toi la gloire.
À toi la gloire.
Voilà, bien connu, qui dit à toi la gloire.
C'est Jésus qui arrive dans l'histoire.
Voilà, enfin, voilà Jésus-Christ. Paul a développé toute sa pensée, une partie sur le rapport au pouvoir, avec le code civil, les règles romaines, l'amour, le décalage. On dit, mais quand même, Paul, je ne veux rien savoir d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
Et quelle fonction a cette irruption de Jésus dans le discours de Paul ?
Eh bien, ça relativise tout ce qui précède. C'est-à-dire que, avec son langage, tout ce qui précède est comme des réalités secondes ou avant-dernières. Et que la réalité ou la vérité, sans la définir, est liée à ce personnage de Jésus-Christ, qui lui va porter le titre de Seigneur. Alors, c'est pas rien porter le titre de Seigneur. Le Seigneur, c'est ce qu'on donne à l'empereur, à Rome, qui institue au nom de Dieu les règles. Voilà. Et là, le titre suprême de l'autorité est donné à ce Jésus qui a été quelqu'un qui a été abandonné, qui a échoué, qui a été isolé, qui a été arrêté, qui a été torturé, qui a été exécuté, qui a été enterré. Aucune valeur. Ouais. Dégagé. C'est là que se trouve l'essentiel. Dieu dit, celui-là, vous les mettez à part, celui-là n'a aucune valeur aux yeux du monde, celui-là.
Est-ce qu'on peut parler de confession de foi ?
Confession de foi, fondamentale, mais qui arrive à la fin. C'est-à-dire, il ne construit pas sa relation au pouvoir et à l'autorité à partir de Jésus-Christ. Il dit, bah, il y a des règles, il y a des choses importantes, il y a du code civil, il y a des impôts, on les respecte. Mais attention de ne pas idéaliser, de ne pas idolâtrer tout cela. Toutes ces autorités sont indispensables et importantes, mais ne sont pas parfaites, ne sont pas idéales. Et un jour, je serai déçu aussi.
Et chacun est remis face à ce choix, finalement.
Oui. Alors, vous l'avez entendu, hein, il relativise, puis en même temps, il sort ce qu'on appelle un tableau de morale, de vie. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans ripaille, sans ni beuverie. Moi, je bois pas d'alcool, alors j'aime bien ce texte. Hein, voilà. Bon, il est situé au 1er siècle. Ça veut dire qu'il rappelle à chaque auditeur, à chaque lecteur, que chacun, chacune est autorité par son comportement, par sa manière de vivre. C'est-à-dire, certes, il y a Paris, il y a Washington, il y a le code civil, c'est important, les règles générales, mais chacun, chacune dans sa manière de vivre, peut permettre d'améliorer et de faire grandir les autres. L'autorité, c'est ce qui fait grandir.
Oui, Vincent aime bien le sens des mots. Là, il faut peut-être rappeler ça, c'est pas une autorité pour opprimer, c'est au contraire pour mettre debout.
Voilà, c'est la différence entre pouvoir et autorité. Hein. Le pouvoir s'impose, l'autorité, c'est le comportement, l'attitude, l'intelligence, la pratique, l'expérience, la simplicité, enfin plein de choses qui font que je vais faire grandir, me faire grandir et faire grandir les autres. On peut avoir de l'autorité sans pouvoir, on peut avoir du pouvoir et de l'autorité d'ailleurs, on peut avoir du pouvoir sans autorité. Je préfère que les deux soient combinés, bien sûr.
Alors, dans cette idée de remise en question possible face au pouvoir, on a depuis le 22 janvier au cinéma le film sur Bonhoeffer, l'espion de Dieu. Les propos de l'apôtre Paul et ce rapport à l'autorité peuvent nous faire penser à ce genre de choses, à ce contexte aussi. Je crois qu'il y a une déclaration qui avait été faite à cette époque-là.
Voilà. Alors, le rapport à l'autorité, à tout temps, dans tous les siècles, se repose régulièrement dans le contexte. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Qui est l'autorité? Où est-ce que je me situe? Et j'aime bien lire cet article. Et souvent, je le lis sans dire l'époque ni la langue. Voilà. Mais là, vous l'avez dit, hein, c'est un texte qui est écrit en allemand, en 1934, en Allemagne. Donc, tout de suite, on se resitue dans le cadre. Ça, c'est important de voir qu'une confession de foi, un texte, est toujours situé dans une époque.
Et justement, il y avait Karl Barth, Bonhoeffer, des personnalités, des théologiens là de l'époque qui étaient assez jeunes d'ailleurs et actifs.
Et actifs, et donc c'est ce qu'on appelle la confession de foi de Barmen de janvier 1934. On dit c'est un brûlot anti-nazi à cause de leur conception de la foi, à cause de Jésus-Christ tel qu'ils le comprennent. Ces chrétiens vont rejeter tout enseignement, toute autorité, toute puissance, toute vérité qui ne serait pas soumis à Jésus-Christ. Voilà. Alors, je vais lire le premier. Oui. Quand je le lis à des catéchumènes, sans leur dire que c'est en allemand, que c'est 1934, ils disent « mais c'est insupportable ce texte, qui a pu écrire un truc pareil ?» Et puis quand on le remet dans le contexte, on dit « ah, ok, peut-être, maintenant je comprends. » Comme Romains 13, il faut le remettre dans le contexte. « Ah oui, peut-être. » voilà. Alors voilà le texte. « Face aux erreurs des chrétiens allemands, boum, et du gouvernement actuel de l'Église qui ravage l'Église et met en pièces l'unité de l'Église évangélique allemande, nous confessons les vérités suivantes. Je suis Le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi, Jean 14, 6. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un brigand. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jésus-Christ, selon le témoignage de l'Écriture sainte, est l'unique parole de Dieu. C'est elle seule que nous devons écouter. C'est à elle seule que nous devons confiance et obéissance dans la vie et dans la mort. Nous rejetons la fausse doctrine selon laquelle, en plus et à côté de cette seule parole de Dieu, l'Église pourrait et devrait reconnaître d'autres événements et pouvoirs, personnalité et vérité comme révélation de Dieu et source de sa prédication. Point.
Voilà.
Ah ben. 34.
C'est dit.
C'est la montée du nazisme. Voilà. Ouais, il y a quelques-uns qui se permettent, à l'époque, d'écrire cela. Voilà.
Un mot de conclusion avant de se séparer avec un morceau qui fera justement référence aussi à tout ça.
Un mot de conclusion, j'aime prendre le texte de Paul dans sa linéarité, ouais. Voir comment aussi ça me provoque un peu, voir son intérêt. Et ce qui me plaît dans ce texte, bon, c'est le rappel de l'intérêt du Code civil, peut-être du décalogue, mais aussi de ce regard très critique sur toute autorité que je voudrais idéaliser. La vie, c'est aussi l'expérience de la déception. Et être clair que les relations que j'ai avec les autres, les autorités, les pouvoirs, l'Église, n'est pas parfaite, n'est pas idéale, et que c'est comme ça la vie. Et c'est comme ça qu'on prend en compte les choses, et qu'on peut peut-être les faire avancer, les faire grandir, les faire évoluer.
Merci beaucoup Pierre Magne de la Croix. Nous nous retrouverons le mois prochain, le 2 mars précisément, pour continuer notre chemin sur les traces de Paul, et en particulier cette fois-ci la question de l'identité. Au revoir Pierre, au revoir Vincent, et nous nous séparons avec un extrait justement de la BO du film sur Bonhoeffer. C'est la chanteuse Lorraine Daigle qui interprète « Then I will, alors je le ferai ».
What we have here within our hearts, so much stronger than the dark. What would we feel when the light is so much greater than the night? If it's for me to die for love, then I will.
C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost et avec Mathieu Leroux à la prise de son. Émission à réécouter cette semaine sur le site protestantaupluriel.org, à tout moment sur celui de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Sur France 2 à 10h dans Présence protestante, le magazine Ma foi autour de la question de la trajectoire. Un rendez-vous en plateau avec Stéphanie Rieder, conférencière et pasteur, et en pleine nature avec le golfeur François Vatier. Et à suivre ici sur France Culture à bientôt 9h, vos informations suivies de Talmudique présentées par Marc-Alain Wachnin, en vous souhaitant un très bon dimanche à chacune et à chacun et en vous donnant rendez-vous avec Pierre Magne de la Croix le mois prochain. If it's for me to die for love, if it's for me to die for love, then I will. What we have here within our hearts, so much stronger than the dark.
I will. Oh yes, I will, Lord.
I will.
Oh.
yes, I will.
I will.
Oh, I will.